RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, épisode 178, émission consacrée au All-Star Game à venir en NBA à Indianapolis. Et pour m'accompagner ce casting avec à ma droite, 4 fois All-Star LNB, même si la horreur de l'événement, c'est Fred Weiss.
Salut, ça va ?
C'est vrai, non ?
Ouais, c'est pas mon événement préféré, oui. Mais c'est, l'ambiance me plaît, mais le match en soi, non.
Quand je disais l'événement, c'est voilà, t'étais pas un joueur de All-Star, ah, c'était
non,
le match.
Clairement.
Voilà.
Tu m'as vu flashy comme mec ?
Non.
Non, ben voilà, d'accord, tout compris.
Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai été chercher s'il y avait des sélections All-Star. J'ai vu All-Star Espoir 2001 pour Stephen Brun.
Oui, mais c'est vrai.
Saison à Cholet.
Parce qu'avant, il y avait un All-Star Game Espoir, levé de rideau du All-Star Game des Grands. C'était Antibes, je crois.
Et ça, c'était pas mal comme idée pour le coup.
Oui, c'était sympa.
Mais ça, c'était beaucoup plus intéressant, évidemment.
Je m'étais fait dunker dessus par Sambou Traoré.
Ah. Lui, c'est un joueur de All-Star. Il prenait les dunks dessus.
Voilà, pour le spectacle.
Mais au moins, il était pas là pour la photo. Il était venu défendre, au moins.
Non.
Non.
Par hasard, je suis passé là. Il y a un mec qui sautait qui m'a dunké dessus. J'étais pas venu pour défendre, t'inquiète. Hein.
Ancien joueur de la JDA, notamment, Sambou Traoré. Bon joueur à l'NBA.
Limoges,
évidemment.
Ouais.
All-Star RMC à 3 reprises, j'ai compté. Ah. C'est Geoffrey Charpy. Salut Geoffrey.
Salut Arnaud, salut à tous.
Sport. Quel sport ?
Le basket.
Production d'émission.
Voilà. Ah, ok.
Alors, All-Star RMC. J'ai arbitré le All-Star Game Auvergne il y a quelques années, en 2010. Il y avait encore David Melody à l'époque.
Ah,
ça, vraiment,
mais
ça existe.
T'as pas fait un All-Star Game aussi dans le Nord ou je sais pas quoi ?
Ah, si, absolument. Le All-Star Game National. Oui, absolument.
David Melody, t'as fait la chanson.
C'est excellent, ça. Non, mais il m'a embrouillé, je crois, lors du All-Star.
Normal.
Voilà. Parce que j'avais pris une mauvaise décision, ce qui était logique.
C'est surprenant.
Ouais,
dans All-Star, faut le faire quand même, hein, sans s'embrouiller avec des joueurs.
Par All-Star, t'as embrouillé quand même. C'est vraiment nul.
Je pense que la décision était très mauvaise à l'époque.
Vous l'avez compris, émission consacrée au All-Star Game avec ce débat. Sabonis, Gobert, Wembanyama zappé pour le match. Est-ce un scandale ? L'Amérique toujours aussi condescendante avec les Européens ? Point d'interrogation. Nous avons deux Français au Rising Star. Bilal Koulibaly qui rejoint donc Victor Wembanyama. Ils seront d'ailleurs dans la même équipe, mais on va s'intéresser à nos futurs joueurs NBA puisqu'il y en a deux très bien placés. Aux deux premières places des prédictions draft, Zachary Risacher et Alexandre Sarr. La France peut-elle devenir la meilleure nation de la NBA donc pour la décennie qui arrive. Et ensuite, vous allez me donner les joueurs qui n'ont pas mérité leur sélection All-Star Game sur un All-Star précis, les escrocs, on va dire. Ça sera à vous pour la partie historique de vous donner vos choix. Et puis le quiz ensuite, All-Star Game NBA avec un retour de la charade, même si j'en suis pas fier.
Ah oui, d'accord.
C'est déjà teasé que t'en es pas fier.
Oui, mais bon, je voulais une charade et c'était un petit peu compliqué. Donc, thème autour des All-Star Games en NBA. Voilà, difficulté 3 sur 5.
Ah, quand
c'est
même.
Pas non plus. Oui, non, c'est pas.
Il y a des questions que basket ou il y a des questions aussi sur les animaux All-Star Games ?
Non, que basket.
Ça,
non
okay. Aucune chance. Moi, je vous quitte. Merci, c'était sympa.
Allez, vous avez le programme de l'épisode 178 de Basket Time, c'est parti.
If you look up the word disrespected in the dictionary, you'll see a picture of Domantas Sabonis right next to De'Aaron Fox.
Sabonis catching bodies inside. Rim rocking.
Rudy Gobert is even someone else that we could talk about making this list over some other guys as the D-boy right now, the anchor of the best defense in the league right now.
Gobert right down Hennepin. Dunk and the foul.
Gobert.
Today, the NBA announced their All-Star reserves, and for some inexplicable reason, both Fox and Sabonis were left off that list.
Wembanyama non sélectionné pour le All-Star Game. Injustice ou logique respectée.
Oh, oh, Mama, Victor Wembanyama!
There it is.
The 10th block right there. The triple-double in blocks for Victor Wembanyama.
Pas de Sabonis et pas deux Français donc pour le match avec Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Est-ce que vous comprenez ces choix ? Alors évidemment, il y a nos deux Français et peut-être Rudy Gobert qui était même zappé totalement du vote des fans. Hein. Vous savez que les cinq premiers sont par conférence et par poste intérieur-extérieur sont choisis. Sabonis dixième du vote des fans, quasi presque deux fois moins que Victor Wembanyama huitième. Rudy donc zappé. Est-ce que pour vous c'est un scandale ? On rappelle Domantas Sabonis parmi les meilleurs rebondeurs de la Ligue et près de 8 passes aussi de moyenne et qui fait une saison incroyable avec les Sacramento Kings. Qui veut commencer, Fred ?
Si tu veux. Je sais pas quoi te répondre sur ça parce que c'est vrai que le seul qui me choque dans cette liste, total, hein, pas seulement sur les titulaires, c'est Karl Anthony Towns, et qui me choque encore. Difficile de dire que c'est pas logique qu'il y ait deux joueurs de Minnesota dans cette sélection. Alors si j'avais dû choisir deux joueurs de Minnesota, c'est pas forcément Karl Anthony Towns qui serait venu, évidemment. Mais il n'y a rien d'absolument choquant. Il y a des joueurs qui sont fantastiques, effectivement, Domantas Sabonis, il fait une saison incroyable, mais t'enlèves qui, en fait ? C'est ma question, c'est t'enlèves qui ?
C'est donc, ça, quand tu parles de scandale, quand tu utilises le mot scandale, ça veut dire qu'il y a un mec qui n'est pas à sa place. Est-ce qu'il y a un mec qui n'est pas à sa place aujourd'hui dans les 24, les 12 à l'Est et les 12 à l'Ouest ?
Moi, je vois pas.
Il n'y en a pas, en fait. Le problème de l'NBA, c'est qu'aujourd'hui, c'est une ligue qui regorge de talent, des mecs qui font des chiffres exceptionnels dans des bonnes équipes, à l'image de Sabonis, à l'image de De'Aaron Fox aussi, qui lui est américain, et il peut y avoir un débat sur la non-présence de De'Aaron Fox, mais il n'y a que 24 places. Donc, tu as forcément des mecs qui sont déçus. C'est la vie. Sabonis, il n'y a pas un manque de respect. Il a déjà été trois All-Star. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a reconnu qu'il avait le niveau d'être All-Star trois fois. Rudy Gobert, pareil, il a été All-Star trois fois. C'est pas comme s'il a toujours été boudé. C'est que, alors, la popularité, oui, Rudy Gobert n'est pas populaire aux États-Unis, n'est pas populaire, n'est pas populaire auprès des fans. Les fans ne votent pas pour lui parce qu'ils n'ont pas envie de voir un fantastique défenseur All-Star Game. Mais enfin, ça, moi, des basketics qui votent pour leur joueur préféré, la déclat de Doc Rivers sur il y a quelques jours qui dit qu'aujourd'hui il faut arrêter de rigoler du trade des Wolves parce que Rudy Gobert il est monumental, ça me plaît plus que des mecs qui votent pour leur joueur préféré. Mais moi, je vois pas de scandale en fait. Il y a aucun scandale. Tu peux chipoter sur il aurait dû y être ou pas. Tous les mecs qui sont All-Star, les 12 à l'Est et les 12 à l'Ouest, méritent d'y être. Il y a trop de bons joueurs dans cette ligue, tout simplement.
Honnêtement, si tu dois choisir entre Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, à l'instant T, tu prends Karl Anthony Towns ?
Je sais pas.
Vraiment. C'est un mec... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux hésiter un petit peu,
sur un
si tu peux
game,
te poser la question.
Je préfère voir Karl Anthony Towns.
Oui, sur un All-Star Game, je suis d'accord. Sauf que c'est le All-Star Game, c'est aussi c'est l'événement, évidemment, mais c'est aussi. Le fait d'avoir une cape de plus, de te féliciter,
mais c'est important pour les joueurs.
Etc.
C'est important pour les joueurs. Enfin, aujourd'hui, être All-Star, ça te met des bonus aussi supplémentaires dans le contrat, parce que tu as des clauses aussi All-Star, et à la fin, tu as Legacy, l'image que tu restes, c'est nombre de All-Star, nombre de First Team, de Second Team. Donc oui, c'est important. Maintenant, Karl Anthony Towns, il n'a pas volé sa place.
Ah non, mais je ne dis pas qu'il a volé.
Il a mis 62 pions sur un match, il a fait des.
C'est assez logique d'avoir le joueur de Minnesota, c'est une évidence. Mais je ne suis pas sûr que ce soit celui que j'aurais choisi. Parce que pour moi, il est d'une courte tête devant Rudy
Entre
Gobert.
Ces trois joueurs, effectivement, c'est très dense. Il y a la question sur Karl Anthony Towns, mais Sabonis est quand même le meilleur rebondeur aussi de la ligue. Ce qui fait avec Sacramento, je pense qu'en plus, il n'a jamais été aussi fort depuis ses débuts en NBA.
Ouais, mais Sacramento, c'est moins fort que l'année dernière. C'est pas premier à l'Ouest.
Là, cette année, il y a un vrai scandale sur la non-participation de Sabonis au All-Star Game. Le gars va terminer
scandale,
la saison en 19-13-8.
Tu dégages qui ?
Mais Towns !
Hein ? Towns ? Mais Minnesota, ils sont premiers de la conf.
Mais peu importe.
Ah bah non, pas peu importe. La logique, c'est que les équipes qui sont premières de conférence, elles ont au minimum deux joueurs. Et parfois, il y en a eu trois, voire quatre.
Moi, je pense que ça aurait été un scandale, justement, si tu mettais pas deux joueurs de Minnesota.
S'il y avait qu'Anthony Edwards, c'était un gros scandale que pas Sabonis.
Ah, ben je suis d'accord.
Ok, moi je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord non plus peut-être avec Steve sur le fait que aujourd'hui être All-Star, qu'est-ce que ça représente vraiment ? Est-ce que c'est la consécration pour un joueur ? Vraiment, je me suis posé la question.
Oui.
Est-ce qu'un joueur qui a pas sa bague, qui a pas son maillot de All-Star, qui a pas sa sélection All-Star, est-ce que c'est important pour lui ?
Bien sûr.
Tu penses ?
Alors pas forcément à l'instant T, mais effectivement, quand tu t'arrêteras de jouer, tu diras, les gens diront All-Star tant de fois, il a été.
Est-ce
mais bien
que,
sûr.
Oui, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus important pour un joueur d'être dans l'équipe type de fin d'année
aussi,
dans le 5 majeur
aussi ? Quand tu vois le lobbying qui est fait toute l'année par les coachs en disant lui il doit être All-Star, c'est trop important pour les joueurs. C'est trop important pour les joueurs, pour eux, pour leur ego, pour leur contrat, pour leur permettre de signer des extensions, des contrats max. C'est trop important pour les joueurs. Alors, je te dis pas
si
que c'est la priorité.
Si c'était important, dit Aaron Fox, il l'aurait très mauvaise. Là, il s'en fout. Il a dit qu'il.
Tu sais qu'il s'en fout.
Mais parce qu'il est au téléphone juste avant l'émission. Aaron lui a dit.
On a un gros problème.
C'est Manu Renard qui est au téléphone.
C'est totalement différent. Non, mais il a dit qu'en plus il faisait froid et que cette sélection elle lui importait peu. Donc pour moi.
Justement, s'il dit que ça lui importe peu, c'est qu'il a la haine peut-être.
J'ai une façon de digérer peut-être.
Oui. Peut-être,
en même
peut-être.
Temps, en même temps, il ne veut pas faire le rageux. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand on a fait le rageux. C'était Rudy Gobert. Il a pleuré devant tout le monde et ça lui a donné
paye,
une image catastrophique. Donc, si tu dois justement faire un acte, c'est de faire semblant que ça s'est super bien passé pour que l'année prochaine, on t'oublie un peu moins.
Mais voilà. J'ai l'impression que depuis quelques années, c'est mon sentiment, la sélection ou non-sélection pour un All-Star, les joueurs s'en foutent peut-être un peu plus. C'est peut-être que je me trompe. Et,
pour moi, c'est un passage de mi-saison hyper important pour les joueurs.
Qu'est-ce que vous trouvez normal quelque part ? Alors vous allez me renvoyer à votre premier argument qui est valable sur la densité, mais il n'y a que deux Européens. Parce que Banquero, je ne le compte pas, évidemment.
Comment ça ?
J'ai Doncic, j'ai Jokic.
Antetokounmpo, il joue pas.
Il y, Yanis, pardon. Ouais, oui.
Ça fait quand même 3 Européens sur les 10 joueurs starters. C'est quand même énorme. Donc de là à dire qu'il y a un manque de respect pour le basket européen, Victor, il n'y est pas parce que son équipe est cata, mais ça sera la seule année où il ne sera pas All-Star. Ça
non, mais on ne va pas se mentir. En plus, on parle des Européens. Pourquoi ? C'est normal. Quand tu es sur le territoire américain, les Américains votent pour leurs joueurs, ce qui est assez logique. Sauf que nous, on n'est pas capable.
On a eu Sadoun qui était.
On n'est pas capable de voter pour nos joueurs. Donc c'est assez logique que finalement, ils ne soient pas surreprésentés. Et ce n'est pas suffisant le nombre de votes qu'on a eu du côté des Français.
Mais quand tu vois comment sont adulés Luka Doncic, Nikola Jokic, Yanis Antetokounmpo, la domination qu'ils ont dans la ligue.
Mais pour moi, pour le temps, vont
oui, pour moi le temps où les Américains déféquaient sur le basket européen, il est révolu. Il est terminé. Le nombre de gamins qui sont draftés aujourd'hui, le nombre de gamins qui sont scoutés, les mecs qui marchent sur la ligue, la déclat de Charles Barkley en 2018 sur Doncic, ça y est, elle est périmée. Elle n'arrivera plus aujourd'hui. Il y a trop de respect pour le basket européen. Team USA qui se fait cogner quasiment chaque été par une nation européenne. C'est terminé. C'est terminé le sentiment de surpuissance et on regarde les autres de haut. Je crois que c'est terminé. C'est terminé tout ça.
Tu partages ça aussi, Fred ? Ils ont enfin compris, les Américains ?
Alors, je sais pas, parce qu'à chaque fois que je crois qu'ils ont compris, ils nous en rajoutent une couche. Rappelez-vous quand même, on a eu Nowitzki, Gasol, Tipeee. Et finalement, malgré ça, on a critiqué Doncic en disant que c'était un blaireau. Je me pose quand même des questions sur leur intelligence et sur leur mémoire. Oui, mais
il avait mangé un donut de trop.
Il a sa tribune quand même sur une chaîne nationale américaine. Donc je me pose quand même des questions encore. Je sais que effectivement, on a gagné énormément en respect et des WNB, ça nous aide énormément, forcément. Mais je me méfie quand même des Américains.
Je suis entièrement d'accord avec Steve parce que Fred, tu dis que t'as encore tu te méfies des Américains, mais pourquoi ? Ils ont prouvé quand même, Coupe du Monde 2019, on les tape, au JO on les tape, je veux dire les Américains maintenant, ils ont peur de nous, on les regarde droit dans les yeux. Ils nous respectent. Ils respectent la France et les Européens.
Oui, alors Fred, je pense que Fred, il fait le distinguo entre les joueurs, les coachs, les dirigeants et les gens qui gravitent autour.
Exactement.
Et les sous-fifres qui comprennent rien, qui pipent rien et qui voient que par le biais des Américains et qui ne calculent pas l'Euroleague. Aujourd'hui, tu as tous les joueurs NBA, ils savent que l'Euroleague, c'est un championnat de très haut niveau. Et il y en a même certains qui regardent des matchs. Donc je pense qu'il faut faire le distinguo.
Tous, hein.
Il faut faire le distinguo entre, pas tous, bien sûr, mais faire le distinguo entre les spécialistes, les joueurs et les autres.
En termes de grand public et de certains médias aux États-Unis, je suis désolé, leur discours parfois il fait vraiment peur. Hein. On dirait qu'ils comprennent rien du tout au basket. Et quand ils vont à la Coupe du Monde, pour eux, quand tu perds, c'est un scandale encore. Hein. Sauf que concrètement, tu parles au coach, eux ils savent que c'est pas un scandale. Oui. Il y a des
et là, si Team USA ne gagne pas la médaille d'or à Paris 2024,
ah bah là c'est pour eux c'est honteux. Hein.
Ah ouais.
Ouais parce qu'on rigole beaucoup parce que c'est vrai que les compétitions FIBA pour eux c'est les JO. La Coupe du Monde, pour eux, c'est secondaire. Alors oui, c'est toujours une honte quand tu perds, mais quand tu gagnes, t'as rien. Les JO, c'est quand même important pour eux. Et si là, on arrivait avec leur équipe type quasiment à les battre, ils prendraient une sacrée claque.
Ah oui, là, parce que là, ils ont mis... Là, c'est les Avengers. Hein. C'est j'annonce qu'il va y avoir une préparation. Tout le monde va être là. Ils vont s'entraîner très sérieusement. Ils montent la plus grosse équipe possible.
Ouais, mais les Avengers ont des obligateurs quand même.
Oui. Enfin, qui savent
jouer au basket. Ils sont un peu sur la jante.
Il suffit de mettre 3 coups de pompe et ça rebond.
Ce que je veux dire, volontairement, c'est qu'ils ne sont plus non plus au top de leur...
Oui, mais ils vont quand même mettre quelques garçons de la nouvelle génération. Donc là, s'ils se font taper à Paris 2024... J'annonce que c'est une déflagration monumentale aux States. Hein, parce que si LeBron, KD, Steph Curry...
Voilà, la pré-liste. Il y a une pré-liste de 41 noms.
Parce qu'il y a tous les meilleurs. Hein, il y a tout ce qui se fait de mieux au monde s'ils se font taper. Et Caruso. Mais mine de rien, dans un roster de 12...
Franchement, moi je le prends tous les jours.
Oui. Mais s'ils se font taper, que ce soit par la Serbie ou par nous, j'ose espérer par nous, je pense que tremblement de terre aux États-Unis.
Hein. Et je pense que Steve Kerr, il peut peut-être aller chercher un nouveau job de sélectionneur et gardera les Warriors, mais...
Bah, Steve Kerr, j'ose espérer qu'il a passé son diplôme de coach FIBA par rapport à l'année dernière.
Non, on en avait parlé. Outcoaché.
Il a fait un colloque avec Vincent Collet, apparemment, parce qu'il ne comprenait pas bien.
J'espère bien. J'espère qu'il fera des changements et qu'il mettra des choses tactiques en place.
Donc pour vous, pas de scandale ?
Non.
Bah non, pas de scandale.
Pas de scandale. Des regrets, oui, peut-être.
Surtout que Rudy fait peut-être. Est-ce que c'est pour vous d'ailleurs l'une de ses meilleures saisons, début de saison ? De sa carrière.
Non, il en a fait des meilleurs à Utah. Il en a fait des meilleurs à Utah maintenant à Minnesota, dans l'impact, dans le rôle qu'il a avec Anthony Edwards et Rudy Gobert. Il fait une saison de très très haut niveau.
Le meilleur Jean Globe, leader à l'Ouest.
Il est de nouveau candidat quasiment numéro 1 pour être 4 fois meilleur défenseur de l'année, pour être une 4e fois meilleur défenseur de l'année. Donc ça veut dire que sa saison, elle est tout là-haut quand même.
Non, il est monstrueux. Moi, je suis pas loin de penser que c'est sa meilleure saison. Concrètement, parce qu'en plus le contexte n'était pas facile. Finalement, après une année de transition, il s'est remis à l'endroit. Il se prend plus pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qui est bien, tout ce qu'il sait faire. franchement, je suis très impressionné par Rudy Gobert et hier encore, hein, tu vois les mecs pénétrer contre les Clippers, tu vois les mecs pénétrer, ils ressortent le ballon, ils calculent même pas, ils disent ok, il y a Rudy Gobert en face, je cherche même pas à forcer. Donc ça, c'est quand même très très fort, meilleure défense et meilleur défenseur de la meilleure défense, c'est quand même fort.
Parce que c'est vrai que oui, il a fait une saison, il est monté à pas loin de 16 points, il a un peu moins de 14 points par match de moyenne. Mais
ouais, mais il y a les stats et l'impact.
Les pourcentages sont bons, les stats, dire Geoffrey...
Il est deuxième au rebond, hein, Woody.
Deuxième au rebond.
Derrière qui?
Sabonis. Derrière Sabonis. Sabonis, le premier tir. Tiens, est-ce que les Américains auraient chié sur la défense, auraient chié sur les comptes, sur les défenses pour les All-Stars? Je sais pas, peut-être.
Geoffrey, maintenant, oui. je peux voilà. Poser une question.
Oui,
Geoffrey, moi j'ai une question. Geoffrey, calme-toi déjà. Et ma question, tu vas à un All-Star Game, t'as envie de voir Rudy Gobert? Vraiment?
Non.
Prends Joseph Varado aussi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils ont choisi en disant je veux du jeu spectaculaire, c'est forcément tourné que sur l'attaque, il va y avoir 170 points. Je suis pas sûr que Rudy Gobert.
J'ai écrit sur mes feuilles Rudy Gobert égale All-Star Game, vraiment match pour lui. Donc je suis pas sûr, mais j'aurais aimé voir Sabonis. Ouais,
Patrick Beverley, moi j'aurais bien aimé aussi.
On aurait rigolé avec un micro sur lui. On aurait bien rigolé. Bon débat est clos, messieurs, pour cette première partie sur ce All-Star Game 2024 qui aura lieu dimanche soir à Indianapolis. Et nous, on va passer à la partie 2 avec l'avenir de nos Français. Deux seront d'ailleurs au Rising Star Challenge.
I'm Alex Sarr, I'm from France and I play power forward for Overtime Elite.
Make some noise for Alex Sarr!
Je m'appelle Zachary Zachi. Mon grand rêve dans le basket serait d'être drafté en NBA.
And the left hand jam by Zachary Risanche. Rebound to Sarr and he throws it back with authority. Alex Sarr.
Zachary Risanche va pouvoir aller dunker! À demain, tout écrasé.
Sarr, he's calling for it. He'll rise up from three, nothing but net. Alex Sarr.
Risanche gives it up underneath. Sarr goes up and stuffs it with the right hand.
Webster gives it back to Sarr with the tomahawk. I heard and read about all the hype for Alex Sarr, and he is better than advertised.
They know. Pas mal ce petit son, merci pour la prod.
Merci à Kevin.
Merci Kevin, il a du goût.
Bien sûr,
c'est un homme de goût. Céline Dion, belle chanson.
Deux Français au Rising Star Challenge, deux rookies. Ils y seront peut-être l'année prochaine en tant que sophomore et peut-être de nouveaux rookies vont arriver. Puisque Zachary Risanche est premier à la mock draft ESPN et Alex Sarr, qui joue lui en Australie, français aussi, est deuxième. Est-ce que la France peut devenir la meilleure nation de la NBA? Et ça peut être paradoxal. Pourquoi? Parce que on a vécu ces dernières semaines le fait que Killian Hayes n'a plus de club, coupé par Détroit. Frank Ntilikina non plus. Fournier n'a toujours pas joué avec Détroit. Et Ousmane Dieng qui ne perce pas à OKC. Donc voilà, on
et
mélange
Malédon,
un petit...
Malédon qui fait les séances de shoot apparemment.
Et Théo Malédon aussi disparu. Donc est-ce que pour vous...
Ah, il fait beau.
Oui, j'avoue.
Arizona, c'est beau.
Fait beau, oui. Ouais. Est-ce que pour vous...
Je peux dire, c'est vrai que j'irai là-bas.
Notre basket français va retrouver des couleurs avec ce qui s'annonce, notamment Zachary Risanche, Alex Sarr, qui vont rejoindre Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, qui font de très belles saisons rookies.
Oui.
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 De quoi? Oui. Bah non, oui, c'est pas ma réponse. Hein.
C'est pas ta réponse?
Non. Alors, il faut pas confondre.
Non, c'est ta réponse.
Plutôt oui. Il faut pas confondre quantité et qualité. Des joueurs, on va en avoir dans la ligue. Des joueurs d'impact, je sais pas. Je me pose la question parce qu'aujourd'hui, on a que deux joueurs d'impact. On a que Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Nico Batum a un impact. C'est pas le leader de sa franchise. Il est important pour les Sixers, mais enfin il lui reste un an.
Voilà, c'est
un an
sa
ou
fin
deux
de
ans.
Carrière,
Max,
c'est
Nico Batum. Il est en fin de carrière.
Oui, mais on sait, à mon avis, je sens comme ça. Là, t'as pas eu Joel Embiid sur la fin, tout ça. Je pense qu'il repartira bien.
Oui, il va pas jouer. Là, puisqu'on parle de cycle de basket français en NBA, on peut pas voir l'avenir avec Nico Batum parce qu'il est quasiment. Il est quasiment sur la fin. Mais les années Parker, Noah, Dio, Batum, Maimi, Petrus, Fournier, elles commencent à remonter. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un vrai vivier de garçons qui sont impactants dans leur franchise. Aujourd'hui, moi, ce que je vois de Zachary Risanche et Alexandre Sarr, moi, je suis incapable de vous dire, là, à l'heure où on se parle, si leur saison rookie, ils vont être énormes. C'est des bons joueurs, c'est des très gros potentiels sur la marge de progression, sur leur gabarit. Mais je ne peux pas vous dire que dans 5 ans, c'est des superstars de la Ligue, moi, Alexandre Sarr et Zachary Risanche. Alors, la comparaison, elle est trompeuse, parce que c'est Victor Wembanyama biaise un petit peu la comparaison, parce que c'est un joueur unique. Mais moi, je sais pas, moi, si Zachary et Alexandre Sarr vont tout arracher dans la Ligue. Permettez-moi d'avoir quelques...
doutes ou
incertitudes.
Ouais.
Oui.
Je peux comprendre.
Ouais.
T'as des doutes aussi, Fred ?
Ben moi j'ai des doutes, surtout qu'on parle de 2-3 joueurs et effectivement, faut pas. Est-ce que c'est Victor et Koulibaly un petit peu hein, mais c'est pas les arbres qui cachent la forêt, quoi. Parce que quand tu penses à Fournier, Ice, Nikina, Malédon, Sissoko, Diabaté, Dieng, Rupert, Sarr, Olivier. Qu'est-ce que tu ils sont en NBA, oui.
C'est les garçons qui vivotent.
Ils font quoi en NBA ?
Ils vivotent et qui vont pas tarder à sortir de la Ligue à un moment ou à un autre.
Exactement.
Et aller revenir en Europe pour
exactement.
Aller chercher des minutes.
Donc, pouvoir dire à l'instant T, on va être la nation qui domine, etc. Oh. Avec surtout des... Moi, je connais pas Sarr. Je le connais. Je l'ai vu jouer un petit peu là-bas en Australie, mais je peux pas te dire exactement son niveau. Rizaché, il joue quand même en première division française. Il est très bon, je dis pas. Sauf qu'à un moment, on peut pas savoir exactement comment il va s'intégrer. Je rejoins Stephen. Wemby, on savait qu'il allait s'intégrer. Tu t'intègres partout quand tu as ce niveau.
Là, pour le coup, on pouvait dire dans 5 ans, est-ce qu'il sera une méga star ?
Oui,
c'est
déjà une méga star. Mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas. Et quand tu vois... Bon, moi, ce qui me fait peur, quand je vois Killian Hayes, drafté 7, qui est coupé par sa franchise...
Avant la fin de son contrat rookie.
Je suis désolé,
hein.
C'est pas vraiment rassurant.
Franck, drafté 8...
Ah oui, mais oui, ouais, mais qui a continué. Oui, mais je suis d'accord, mais qui a pas été coupé pendant ces années rookies.
Là, c'est imposé nulle part. Ah bah oui, bah là,
c'est catastrophique.
C'est le summum, te faire couper par le cancre de la NBA, c'est.
Non mais t'imagines, t'imagines un petit peu la sensation. Donc moi, je suis pas vraiment rassuré. Pour moi, oui, il y a des joueurs qui vont performer parce qu'on a un potentiel, on a un vivier. Mais pour combien qu'ils vont survivre ?
On est très loin du Canada. Le Canada va marcher. Si on parle de nation, le Canada va marcher sur la NBA.
Et Jamal Murray marche déjà.
Là. Ils ont Shai Gilgeous-Alexander qui est un potentiel MVP qui va peut-être être champion. Ils ont un paquet de gamins. Sheldon Sharp, sa deuxième année au Portland, il est déjà à 7 fois moyenne.
Bénédicte
Mathurin, sa deuxième saison à Indiana, il est fantastique. Ils ont Andrew Nembhard qui est à Indiana, qui est un bon joueur. Ils en ont partout, les Canadiens. Ils en ont partout. Eux, ils ont des kilomètres d'avance sur nous sur les années à venir.
J'ai oublié dans le top 10, il y a Tijan Salin, Cholet qui est 8e, Geoffrey.
Oui. Et en fait, Steve a fait une comparaison entre la quantité et la qualité, c'est-à-dire qu'en début de saison, sur les 125 joueurs étrangers qu'il y avait dans la Ligue, il y en avait 14 qui venaient de France et il y en avait 26 du Canada. Et certains médias, on l'avait pas fait ici, on l'a fait quelques semaines plus tard, on s'était dit est-ce qu'on est en train de vivre l'âge d'or du basket français ? Mais en fait, quand il y en a un qui éclot, il y en a trois qui régressent derrière. Donc en fait, oui, que Rizaché, que Sarr, que Tijan Salon, ils soient annoncés les trois dans le top 5 de la future draft, c'est super, mais est-ce que ce serait pas bien pour eux à un moment donné d'aller faire peut-être une année en Europe plutôt que de vivre la NBA tout de suite, c'est-à-dire que
quand le train il passe,
je l'aime bien son discours, il est sympa, mais quand t'as un gamin qui est 1, 2, 3 ou 4 ou 5 de la draft, va lui dire vas-y reste un an
non,
en Europe.
Non mais bien évidemment, mais en fait, il y aura 10 millions qui t'attendent,
même la franchise, les mecs ils vont dire attends viens on va te faire travailler, on va en mise sur toi.
Peut-être
tu imagines de perdre un premier tour de draft.
Bien sûr, non mais peut-être que c'est un peu idyllique, mais je veux dire des Français qui sont partis tout de suite. Oui, mais c'est peut-être le monde des bisounours, c'est idyllique, mais le nombre de Français qui sont partis en NBA, qui finalement, le terme est peut-être un peu fort, mais ont échoué, des Joël Ayayi, des Sekou Doumbouya qui sont partis en NBA.
Sekou Doumbouya, il a un peu échoué partout, il est passé.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, le meilleur exemple, c'est Gershon Yabusele, qui est en train de marcher sur le Real Madrid et qui est en train de marcher sur l'Europe avec le Real Madrid. Il a fait 2 ou 3 saisons avec Boston. C'était correct, mais sans plus. Il est reparti, bah c'est très bien. Bravo, mon garçon.
Oui, mais il est reparti. Il a tenté son aventure à fond quand même. Il est parti quand on l'a appelé.
Ouais, oui,
tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Moi, j'arrive à comprendre ton discours, mais effectivement, quand t'es drafté très haut, c'est difficile de dire non, j'y ai pas du tout. Et je te dis, quand t'es dans les 5 premiers choix d'une draft,
mais tu
l'équipe, elle mise énormément sur
toi. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, t'as aucune certitude sur ça. Ça, on l'a jamais vu jouer.
Oui, mais eux, ils l'ont vu jouer. À un moment, ils ont des vidéos, ils connaissent un petit peu le basket.
2m15,
qui bouge super bien. Enfin, à un moment, il y a quand même un potentiel. Je ne sais pas quel est son niveau, mais eux l'ont vu plein de fois.
D'accord. Et bah pour recentrer ce débat, est-ce que des mecs comme Killian Hayes, des mecs comme Frank Ntilikina, est-ce que pour eux, la NBA, c'est pas fini ? Est-ce qu'ils ne doivent pas retourner en Europe ? J'ai écouté Stephen dans son émission.
C'est fini.
Voilà.
C'est fini, mais
pour toi, c'est fini.
Mais il faut qu'eux prennent conscience. Nous, on peut pas décider alors.
Non, mais Eli Okobo, à un moment, a pris conscience que voilà, Phoenix, c'est fini, et ben on revient en Europe.
Eli Okobo n'est pas 7e ou 8e de.
Oui, mais il a pris conscience, tu vois, c'est un exemple.
Oui, oui, joueur qui a pris conscience. Je rejoins Stephen, c'est quand même plus difficile de prendre conscience que tu n'es pas fait pour la NBA quand tu as été drafté 7-8. C'est quand même très, très difficile dans ta tête.
Maintenant, Théo Malédon va quitter la NBA, c'est inéluctable. Des garçons, des joueurs comme lui, il y en arrive 30 par an. Des joueurs comme lui, il s'est jamais imposé nulle part. Il est à la Phoenix, il a joué une une minute, je crois, depuis qu'il est. Ouais, maintenant qu'il y en a, quelle franchise va récupérer un mec qui s'est fait couper de la paire franchise NBA France.
Et les critiques dures sur Rice en disant.
Il n'a
pas progressé au tir extérieur.
Bah, voilà, ouais, c'est quand même problématique.
Est-ce que tu as vraiment besoin d'une critique pour le constater, en fait? Non. C'est pas très difficile, tu le vois sur le terrain.
C'est dit publiquement par un dirigeant des Pistons,
les NBA le savent.
Franck, ça fait 7 ans qu'il est en NBA, il s'est jamais imposé nulle part parce que par sa faute, par manque de
blessure,
par les blessures, parce qu'il est blessé à répétition là. Charlotte, moi, d'après mes infos, ils étaient vraiment chauds pour lui. Ils ont garanti son contrat au mois de janvier. Sauf qu'il est revenu de son péroné là.
Ouais,
est revenu, il joue 2 matchs, il a un problème à l'adducteur. Il rejoue 2 matchs, il a un problème au dos. Au bout d'un moment, t'as une responsabilité quand t'es dirigeant, quand t'es coach d'une franchise. Tu peux pas non plus attendre un gamin sur sa 7e saison NBA qui peut jouer qu'un match sur 4. Donc moi, je les encourage à venir. Il y a des mecs qui aujourd'hui sont en Euroleague et qui ont fait des bien meilleures carrières NBA que Kylian Hayes et que Frank Ntilikina et qui sont épanouis en Europe. Ouais, qui s'éclatent, les mecs. Ils jouent des matchs devant 20 000 personnes. T'as, c'est un kiff, gros. Alors peut-être que, oui, c'est triste. Moi, j'aurais voulu les voir performer en NBA. Hein. Je suis désolé pour eux. Ils ont essayé, c'est bien, ils y ont mis les pieds, ils n'ont pas réussi, c'est pas dramatique, la vie s'arrête pas là.
Puis on voit, il peut y avoir quelques passerelles, alors je te dis pas que ça marche à chaque fois, mais un Dante Exum par exemple est revenu. Ça, mais bon, après, tu prends un Micić, c'est compliqué, il vient de se faire trader alors qu'il marchait.
Sauf que c'est quoi leur niveau,
mais...
c'est quoi leur niveau réellement à ces joueurs? C'est comme tant qu'ils jouent pas, qu'ils jouent très peu.
Tant qu'ils jouent pas,
Malédon, c'est quoi son niveau?
Je le connais pas. Moi, je suis curieux de voir ces garçons-là revenir en Europe, rejouer au basket, parce que quand t'arrives avec ce statut-là, ils te prennent pas pour faire le sous-fils 8e, 9e.
Sauf que c'est quoi leur niveau?
T'as des responsabilités directes. Il va falloir être bon tout de suite. Et puis l'équipe de France, enfin Frank Ntilikina, s'il veut faire les jeux, il faut jouer au basket, mon grand. Ça y est, il faut prendre un ballon.
Bah, le même discours qu'on avait sur Fournier, sauf qu'il a l'avantage, Fournier, d'être un cadre et d'avoir montré plein de choses déjà.
Oui,
après, il va falloir se rejouer à un moment donné quand même, Evan.
Je pense que ça sera le débat de la semaine prochaine, puisque l'équipe de France va jouer. Parce qu'effectivement, là, sur le poste de meneur, on avait fait notre sélection il y a déjà quelques semaines. Mais avec ses paramètres, Ice qui joue plus, Ntilikina compliqué, Malédon, on ne l'avait pas mis, mais ça pose de plus en plus de problèmes aussi pour notre poste de meneur. Et un Thomas Hurtel qui s'est disqualifié peut-être avec ses récentes déclarations.
Oui,
voilà. Oui. Moi, ce que je voulais vous demander avant, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette draft 2024...
Elle est faible.
Ça danse pas un peu faible.
Après, quand tu passes après une draft où il y a Victor Wembanyama,
Brandon Miller,
forcément qu'elle a l'air un peu fade, la draft.
L'année d'avant,
la hype, elle est beaucoup moins importante.
L'année d'avant, c'était Paolo Banchero qui est quand même.
Et du Scottie Barnes, ou c'était celle d'avant.
Ouais, peut-être. La 2024. Enfin, bon, si Zachary Risacci ou Alexandre Auxerre numéro 1, on va pas cracher dessus. Tu peux pas avoir des QV chaque année avec des joueurs uniques comme ça qui vont être amenés à marcher sur la ligue pendant 15 ans comme peut l'être Victor.
En 21, t'avais Banchero, Holmgren, Jabari Smith, Keegan Murray, Jaden Ivey, Bénédicte Mathurin notamment. L'année d'avant, avec Kate Cunningham numéro 1 et Scottie Barnes. Tu vois, il n'y a pas forcément de très gros prospects.
Mais qui sont des bons joueurs maintenant, Kate Cunningham.
Absolument, Kate, gros prospect numéro 1. Tu vois, je trouve que l'année dernière, il y a eu ce duel.
Regarde, je vais vous poser la question. Kate Cunningham qui est numéro 1 de draft ou Paolo Banchero qui est numéro 1 de draft? Avant qu'ils arrivent en NBA, est-ce que vous vous dites pas, ouais, ces mecs-là, ils peuvent jouer dans la ligue? Moi, aujourd'hui, quand je vois Zachary Risacci jouer avec Bourg-en-Bresse en Eurocup ou en Betclic Elite ou même Alexandre Sarr, moi, je te dis pas, ce mec-là, s'il est numéro 1, il fait du Paolo Banchero tout de suite. Hein. Enfin, je sais pas, moi, peut-être que je suis un idiot et que j'ai pas envie de soutenir
Basket français. Est-ce que tu poses les mêmes questions que Bilal, par exemple, quand on disait, on annonçait Bilal NBA qui arrivait, même si Zachary, ça fait un petit
Bilal,
moment.
Je suis agréablement surpris de ce qu'il
tout
fait.
Tout le monde, je pense.
Tout le monde. Mais je sais pas, quand tu dis Zachary Risacci et Paolo Banchero, moi, j'ai pas la même vision des joueurs.
Mais t'as des
doutes. On doit vraiment répondre à ça.
T'as des doutes physiques, athlétiques sur le QI basket?
Je sais pas, moi, Kate Cunningham et Paolo Banchero, il m'avait fait une plus forte impression.
Ouais, bien sûr. Non, je suis d'accord. On sait pas où on va. On sait pas exactement où on va avec
après,
ces joueurs.
Après, sur Zachary Risacher, est-ce que ça correspond pas aussi un petit peu à sa personnalité, qui est plutôt discret. On l'a entendu un moment plutôt timide.
Il progresse.
Progresse, mais
avec les médias, oui.
Mais
il n'est pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. C'est juste sa faculté d'adaptation directement, de rentrer et d'être un banquero, d'être un pack en direct.
Numéro 1 de draft. Hein. Je ne parle pas d'un gamin qui a drafté 7, 8, 9, 10. Hein. Numéro 1 de draft.
Ça serait quelque part.
Ça veut dire que tu arrives dans une franchise. Alors, ce sera Détroit, peut-être. San Antonio. Ça veut dire que tu arrives dans une franchise avec le statut de numéro 1 de draft. Ça veut dire que tu as des responsabilités directes où tu as des tickets shoot. Hein. Tu ne passes pas par la G League.
Et succéder à Victor quelque part sur le. le statut d'arriver, alors même si on n'a pas les mêmes attentes, mais ça serait quelque part, ça paraît terrible de dire ça, mais ça serait pas lui rendre service qu'il soit numéro 1 de draft.
C'est lourd à porter.
Parce que Victor est formaté depuis
mais lui il est né
un moment, hein.
De la draft, et au contraire s'il n'avait pas été, c'était ça qui était négatif pour lui, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué. Mais quand je vois un Ryan Rupert, c'est beaucoup plus faible qu'un Zachary Risacher.
Je me pose la question. Après Ryan, moi j'ai pas la vision parce qu'il est en Australie.
Oui, je suis d'accord.
Donc j'ai pas tous ses matchs en tête.
Concrètement, l'image qu'on avait.
Je crois que Ryan a plus de carences offensives, un peu moins de talent offensif que Zachary.
D'accord.
Qui est très propre
sur
le tir.
Mais la différence n'est pas abyssale quand même.
Non, il n'y a pas deux mondes d'écart.
Ouais, c'est ça. C'est là que je veux dire.
Et Ryan ne joue pas un cachou.
Exact.
C'est ce qu'a rapporté par ESPN, ce qui a mis Zachary Risacher en numéro 1, c'est son efficacité offensive. Évidemment, il y a l'envergure,
l'athlétisme. Il y a des pourcentages hors normes. 3 points, il a 50% en Eurocup. Après, il joue une compétition européenne où il est bon, il est premier. Non, il fait beaucoup de bonnes choses. Mais attention, il y a un gap entre être bon en Eurocup et être numéro 1 de draft. Hein. C'est pas la même chose.
Rappelez-vous de Kylian Hayes, qui faisait des grosses pertes, enfin des bonnes pertes, en tout cas à Ulm.
Moins bonnes, mais
très correctes, et comme étranger, en fait.
Oui.
Donc ça te met un peu plus de pression aussi.
Après, ESPN s'est beaucoup enflammé ces dernières semaines sur Risacher et Sarr. Et là, j'ai l'impression qu'il découvre ou qu'il redécouvre un petit peu le jeune de Cholet, la Tijan Salin, sur le dernier mock draft qui était proposé par ESPN, il était décrit comme un combo athlétique et talentueux avec un immense potentiel. Il a vraiment une chance d'être spécial. Donc en fait, je me dis là pour l'instant, il est annoncé top 4 de la future draft. Et ben j'ai beaucoup envie de croire en lui parce que c'est un mec qui fait pas forcément de bruit. Tout le monde le connaît pas forcément tout de suite dans le basket français, mais il est quand même annoncé pour l'instant dans le top 5 de la saison prochaine. Et lui, on arrive à peu près à voir ses matchs, on sait ce qu'il vaut et on sait qu'il aura pas toutes les responsabilités offensives quand il sera drafté l'année prochaine, peu importe l'équipe, par rapport à un Risacher ou un Sarr.
Il est solide. Hein. Tijan Salin, il est jeune, il est solide. Moi, j'aime bien son
grosse confiance en lui. Hein.
Ouais.
Grosse confiance en lui.
Énorme.
Il prend des énormes tirs et tout ça.
Très gros tir à 3 points. Est-ce que c'est pas ce qu'on va lui demander en arrivant en NBA? Tu te mets dans le corner et tu mets des tirs.
Enfin, j'ose espérer qu'il va faire autre chose quand même.
Bien évidemment.
Non, mais la grosse confiance en lui, c'est important. Le physique, c'est important parce moi, je trouve qu'il est bien tanké déjà. À la limite, je mettrais peut-être plus une pièce sur lui. À la santé.
Bravo, Frédéric.
Donc, la question, la France peut-elle devenir la meilleure nation de la NBA? La réponse est plutôt non. Stephen, tu veux avec les Canadiens?
Non,
la
réponse est injouable.
La réponse est clairement non.
Clairement non, carrément, monte d'un cran. Bah merci messieurs pour cette deuxième partie, la partie historique. Vous allez me donner qui n'a pas mérité sa sélection au All-Star Game NBA.
There's been a few All-Stars that have made no sense at all as to why they made the team. And maybe none more so than Magic Johnson. He made the 1992 NBA All-Star Game while retired.
All-Star Games, the slam.
Yao Ming was so massively popular in China, he was easily voted into the All-Star game every single season of his career. Even the one where he only played 5 games due to injury.
Scrub number 3, Kyle Korver.
In 2016, fans almost got Zaza Pachulia as a starter in the All-Star game over Kawhi Leonard.
Kobe Bryant in 2016. As painful as it is to say, Kobe Bryant did not deserve to be an All-Star in 2016.
Qui a volé sa sélection All-Star Game? Alors, il va y avoir des beaux joueurs.
Ouais, qui a volé l'orange?
C'est l'orange du marchand. Fred Weiss, Stephen Brun et Geoffrey Charpie, vous avez sorti des noms. On va commencer par le plus ancien. Fred, à ton image, un peu old school.
Je ne sais pas comment je dois prendre cette phase d'introduction.
C'est pas un compliment, je pense.
Alors, j'ai pas aimé ta question. Je trouve que c'est injuste. Tu n'es pas sélectionné au hasard au All-Star Game. Donc, j'ai voulu parler d'un mec qui ne parlera peut-être un peu aux jeunes, mais qui, quand il pense à lui, il ne pense pas du tout à un All-Star. Et je trouvais que c'était intéressant comme façon d'aborder le sujet. J'ai choisi un mec qui a joué 6 saisons à Chicago, quand même, avec 9 points, 5,5 rebonds de moyenne. Donc, et All-Star, ce garçon. Hein. Il a été champion NBA 91, 92, 93. Il a fait 963 matchs en NBA, un peu plus de 13 points, un peu plus de 6 rebonds. Et ce garçon a été All-Star. Et tu sais quoi? Son année rookie. Il a été All-Star son année rookie. Et ben oui, je parle du shooter fou de lancer franc, Bill Cartwright. Celui qui a le plus beau shoot de l'histoire de la NBA, du basket en général, de lancer franc, Bill Cartwright. Il est drafté en 79 par New York, 3e, donc avec une grosse attente, et directement sa première année, il va être All-Star. C'est quand même assez incroyable. Ce joueur qui était un joueur de l'ombre, eh ben, ça a été un All-Star dès sa première année. Sauf que manque de peau, il a été drafté par New York. New York, qui va attendre Patrick Ewing, qui va recevoir Patrick Ewing en 85. Donc il va avoir quelques années où il va pouvoir se montrer un petit peu. Mais à un moment, il en a marre, il a envie de changer d'air. Et du côté de Chicago, Phil Jackson voudrait avoir un grand pour s'imposer dans la raquette, pour être dur, pour être solide. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont échanger Charles Oakley, le meilleur rebondeur 87-88. Et bien en 89, ils vont l'échanger pour Bill Cartwright. Bill Cartwright, le pauvre, est détesté par Michael Jordan dès qu'il arrive. Parce que déjà, il était pote avec Oakley. Parce qu'effectivement, il dit comment tu changes un mec de 24 ans contre un mec de 34 ? Alors, c'était pas vrai, il n'avait pas 34, il avait 31. Mais c'était pour la vanne. Ça a été toujours très compliqué pour lui. Ça a été un joueur de l'ombre. Ce joueur qui était tellement talentueux, on se rappelle, hein, je vous le dis, plus de 20 points de moyenne, c'est son année rookie. Donc, directement intégré dans la ligue, ça, les critiques, c'était toujours compliqué. Dès qu'il jouait en 5 contre 5 à l'entraînement, Phil Jackson ne les mettait pas dans deux équipes opposées. Il les faisait jouer ensemble pour éviter qu'ils se battent. Donc vraiment, Bill Cartwright a eu une vie très compliquée avec Michael Jordan. Mais Bill Cartwright a aussi eu un problème. Il a reçu un coup au larynx, ce qui a modifié sa voix pour le restant de sa vie dans un match contre Indiana. Et ce joueur a été un joueur fantastique, qui n'a pas été que le joueur besogneux qu'on a connu. Et effectivement, les jeunes de maintenant qui ont pu voir éventuellement The Last Dance se disent « Bill Cartwright, c'était un joueur très moyen, jamais il peut être All-Star. » Ben si, ce joueur est un vrai talent offensif avant d'arriver à Chicago. Et Omar m'a tué, mais Michael Jordan l'a tué aussi.
Mais quelque part, c'est grâce à ce trade que les Bulls, derrière, vont être champions, parce qu'ils n'y arrivaient
exactement.
Pas avec Charles Oakley. Hein,
exactement,
malgré
ils sont champions,
la proximité.
Je dis 91, 92, 93, avec un vrai impact quand même de ce joueur, qui était plutôt cantonné à la dissuasion, j'ai envie de dire, à donner des coups, à poser des bons écrans. Ben, quand tu joues avec Jojo et Pippen, t'as pas trop de ballon pour toi.
Drafté la même année que Magic Johnson, ça a peut-être valu d'ailleurs le début des inimitiés Michael Jordan, Jerry Krause, hein, le GM des...
Forcément, je te dis, très ami avec Oakley, donc forcément quand il se fait transférer et qu'il est deux années de suite meilleur rebondeur, tu te dis pourquoi tu échanges. Et finalement, bah, ça a été bénéfique pour eux, ils ont gagné trois titres.
J'ai un défi pour toi, est-ce que tu peux m'expliquer la mécanique de tir de Bill Cartwright à la radio?
Ben, alors c'est super simple. Tu mets quelqu'un, tu lui branches sur une prise électrique directement et ça ressemble à peu près au shoot de Bill Cartwright.
Qui était le pire joueur avec la pire mécanique de tir que t'es côtoyé?
Karim Souchu.
Oui. Et toi, Steve?
Karim Souchu, c'était pas mal.
Oui, mais je l'ai pas côtoyé, moi.
Oui, mais je suis d'accord, mais si j'imagine que tu as vu shooter.
Ah oui, c'était bizarre.
C'est une très belle imitation.
Je sais pas.
Non, t'as pas?
Si, Vincent Greer, un Américain, mais ça a pas parlé à grand monde. Non. Avec qui j'ai joué à Gravelines. Dramatique.
Mais c'était efficace ou non?
Non, dramatique.
Il y avait John Chournin, un ancien joueur à Strasbourg.
Oui,
qui avait la mécanique de l'éléphant,
La trompe de l'éléphant.
Il y a Karim Reid qui avait un shoot un peu de côté, Karim gaucher, pas la Céline Numerck vraiment sur le côté.
Arnaud Valadon aussi, un tir kata.
J'ai pas de tir, c'est ça. J'ai dit pas kata, j'ai pas de tir. Voilà pour Bill Cartwright, belle histoire.
Je voulais un peu rappeler ce joueur qui n'a pas été qu'un besogneux, qui a été un beau joueur aussi. Enfin, pas au lancer franc, mais sinon oui.
On remonte un petit peu dans le temps, les années 2010, avec un grand chinois, Yao Ming, Geoffrey.
Absolument, Arnaud. Et pour commencer, on va se faire un petit plaisir, on va écouter un petit extrait.
Yao Ming's in the middle, 8-time All-Star, only played 5 games this year, stress fracture in the left ankle, and had surgery in January. He will be replaced by the commissioner.
He killed in the 5 games, I guess.
Et là, vous vous dites sûrement, en quoi une sélection de Yao Ming au All-Star est scandaleuse? Eh ben, je vais vous l'expliquer, on est alors en 2011 et Yao Ming a déjà participé à 7 All-Star Games à cette époque-là. Son talent n'est plus à prouver, sa cote de popularité non plus, car c'est bien celle-ci qui lui a permis d'être choisi par les fans cette année-là. Le premier exemple, c'est à cette époque-là déjà que la NBA introduit pour la première fois des bulletins de vote en mandarin pour accueillir Yao Ming, la première star chinoise. Et lors de cette saison, en 2011, sa dernière avant son départ en retraite, le Chinois, il dispute que 5 matchs. 5 matchs avant de contracter une fracture de fatigue à la cheville gauche. Donc 5 matchs, c'est statistique moyenne, 10 points, 5 rebonds. Donc normalement, quand le moment du All-Star Game arrive, le moment des sélections arrive, on se dit pas, Yao Ming, il a une chance d'y aller. Eh ben, que nini, voilà. Une hérésie pour beaucoup, mais pas pour la communauté de son pays qui décide de se mobiliser à l'époque et de voter en masse pour lui. Et grâce à ses fans, il obtient même une place dans le 5 majeur de la Conférence Ouest pour le All-Star Game, une place qu'il ne peut donc jamais honorer parce que sa blessure l'a tenu éloigné des parquets pendant 6 à 7 mois. Donc David Stern, à l'époque, qui était commissionneur de la Ligue, il choisira Kevin Love pour le remplacer, mais pas dans le 5 de départ. Ce cadeau, il reviendra à Tim Duncan parce que, à vous écouter, messieurs, c'était très important, une sélection dans l'All-Star Game, donc il a décidé de le donner à Tim Duncan. Et donc Yao Ming a été choisi en 2011 par les fans pour participer à un All-Star Game alors qu'il était blessé. C'est quand même totalement scandaleux.
C'est le système de vote hein, qui
moi,
fait
ça. Moi, je
ne
prononce pas, gros. Moi, lors des questions, j'attaque la Chine, puis le débrouille. Voilà, t'es tout seul, mon grand. Vas-y.
Moi, j'ai mis mute sur mon micro. Okay. Donc bon,
merci. Quand on a des amis comme ça, c'est rare d'avoir des ennemis.
La Chine, c'est le système. Voilà. Il joue que 5 matchs, il est All-Star.
Ah, oui. Bah, c'est le système de vote. Hein.
Voilà, on a le droit de dire que c'est ridicule.
C'est pour ça qu'ils l'ont changé.
Zaza Pachulia.
Ah oui. Voilà, bah écoute, moi, il y a des pays qui
se mobilisent pour leurs
joueurs. Bravo à eux.
Après, ça, c'est tout le débat. Le All-Star, est-ce qu'on récompense les stars de la Ligue ou ceux qui font le meilleur début de saison?
C'est pour ça qu'après, il y a le vote des coachs qui décident des remplaçants. Les coachs, eux, font plus en fonction des performances et du rendement de la saison pour équilibrer tout ça.
Montons le choix, Stephen.
Mon choix, écoutez, moi, je vais vous parler d'un mec qui, en 2016, jouait 28 minutes par match. Dans une belle franchise. 17 points, 36% au tir, 28% à 3 points, 3 rebonds, 2 passes. Son équipe, au moment des votes, a gagné 11 matchs. 11 matchs, 44 défaites. Vous vous dites, bon, elle peut pas être All-Star quand même. Bah, c'est moyen, quoi. C'est moyen. T'as gagné 11 matchs, t'as mis 17 points, t'as une belle croquette, t'as des pourcentages pourris. Et ben, il va quand même être All-Star et ça sera son 18e. Ce garçon-là, c'est Kobe Bryant qui aurait eu le plus de voix publique, 300 000 voix devant Steph Curry qui, à l'époque, est dans son prime avec les Warriors. C'est la dernière année d'ailleurs où le vote du public comptait à 100%. Ensuite, ils ont arrêté cette petite mascarade pour éviter sur ce genre de choses-là. Kobe Bryant, il a le droit. Ça faisait partie des traditions. Des légendes NBA à qui on enfile une dernière étoile pour le devoir accompli, par la nostalgie aussi avant de
voir
partir.
Et bien sûr,
la popularité plus que sur ses performances. Et Kobe, il a quand même deux étoiles un peu cadeau. Il y a celle-là et il y en a une deuxième en 2014 où il a joué 6 matchs toute la saison. Il va quand même être starter All-Star Game. Voilà, donc Kobe, il a quand même gratté deux étoiles sur le maillot, un peu cadeau. Il y a des garçons aussi qui ont gratté des étoiles cadeau. C'est Nowitzki et Wade qui ont reçu une sélection à 37 et 40 ans. Alors, ils n'étaient pas starter, mais c'était leur dernière saison NBA. Et Adam Silver avait fait une petite exception en disant « Allez, on vous invite pour votre dernière chacun dans une conférence, dans un match. »
Très beau.
Alors, 2016, c'est aussi la dernière de Kobe.
Oui, c'est aussi la dernière de Kobe, mais une saison catastrophique. Là, il est starter. Hein. C'est pas pareil que d'avoir une invitation d'Alan Silver pour service rendu à la nation. Là, il est starter. Voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil pour un joueur qui est bien sûr une légende NBA, mais qui parfois a gratté des petites étoiles comme ça juste parce que c'était Kobe Bryant.
Après la dernière, autant peut-être 2014, il peut y avoir débat par rapport à ce que le gars produisait sur le terrain, mais c'est vrai que pour sa dernière. Non, ça compte pas le fait que ça soit des meilleurs joueurs de l'histoire et que c'est ta dernière saison.
Il n'y a aucun problème avec ça. On aurait pu faire Magic Johnson aussi qui veut jouer All-Star alors qu'il a pas à la retraite et qu'il n'a pas de contrat NBA. Il y en a beaucoup hein, d'histoires marrantes. Moi, je voulais choisir un grand joueur parce que des sombres joueurs, comme il y a Jamal Magloire qui a été All-Star, bon, personne ne s'en rappelle. Il y a Steve Johnson, un pivot de Portland qui a été All-Star
on
aussi.
On aurait parlé de personnes voilà. que personne ne connaît.
Voilà, donc je préférais choisir un mec un peu connu. Il est connu, Kobe, non?
Oui, oui. Voilà. Kobe, il y a une statue vient voilà. Inauguré devant.
Et Arthur Robert, le producteur de l'émission et celui qui s'occupe des podcasts, vas-y, je vais te la faire pour toi, tu la mettras sur le réseau. Kobe Bryant est un voleur de All-Star. Voilà, t'as ta pastille, mon grand.
Merci, Stephen, Geoffrey, Fred. Place au quiz spécial All-Star Game dans Basket Time.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Quel porciné peut shooter sans scrupule
Quel croquette.
Je commence.
Bah, quel salaud, celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Russell Westbrook.
Ah, ok, si.
Moi, j'en dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde. Oui, c'est un bon résumé.
C'est un bon résumé. Alors, c'est un thème All-Star Game NBA. Merci, hein, voilà, classique, il n'y a pas de questions animaux. Non, mais vous vous demandiez s'il y avait.
Non, mais moi, s'il n'y a pas de questions animaux, je ne peux pas gagner, en fait.
Bah, c'est un peu compliqué, All-Star Game et animaux.
Mais voilà, tu ne fais pas d'efforts.
Si, tu fais un truc sur
les chèvres.
All-Star, Star Wars, Chewbacca, les Ewoks, c'était
quoi le rapport avec les chèvres? Te dis avec les
non,
chèvres.
C'est moi les chèvres.
Ah,
c'est pas...
ah, ok.
Les goats, les chèvres.
Oh, oui. Excellent. Oui. Alors, dans la sélection de cette année, quels sont les joueurs qui sont pour la première fois All-Star? Je vais vous donner des noms, vous allez me dire vrai ou faux. Voilà, c'est simple.
Chacun votre tour.
On commence par toi, Fred. Donc, dans la sélection de cette année, quels sont les joueurs qui sont pour la première fois All-Star? Tyrese Haliburton.
Oui.
Non, c'est faux, il était l'année dernière.
Geoffrey. Il faut faire les chèvres.
Jalen Brunson.
Jalen Brunson, c'est la première fois qu'il
fait ça. Mais ça, c'est trop facile.
C'est ouais, bon.
Ouais, ça fait un buzz de ouf, moi.
Ben oui.
Tyrese Maxey.
Qui?
Tyrese Maxey.
Bien sûr.
première, c'est bon.
Ah d'accord, donc les questions faciles, c'est pas pour moi.
Non, c'est pas pour toi. Paolo Banchero.
Alors, All-Star, quand on dit All-Star, c'est le match.
Le match.
Okay. Oui, c'est la première fois parce qu'il a fait le truc des, étu- des jeunes, la Rising Star.
C'est la première fois, c'est bon. Scotty Barnes, Geoffrey.
Scotty Barnes, il l'a déjà faite ?
Non, c'est sa première c'est sélection All-Star.
Oui, il l'a peut-être fait quand il était enfant. Peut-être qu'il a fait All-Star.
Peut-être qu'il a fait l'All-Star Auvergne.
Espoir, il a peut-être fait l'All-Star Espoir.
En Auvergne, en Auvergne.
Shai Gilgeous-Alexander.
Non.
T'es sûr ?
Oui.
Deuxième pour Shai. Donc ça fait deux points pour Stephen, un point pour Geoffrey.
Il m'a pas respecté, il m'a demandé si j'étais sûr.
Ouais, j'avoue, là, c'est abusé.
Je demande, hein, c'est, j'ai le droit d'être poli. Oui. De...
Il était quand même à l'NBA First Team l'année dernière, donc il était le star.
Là, c'est question de rapidité. Vous êtes tous ensemble. Qui détient le record de points sur un match au
Jason
Star-Gate
Tatum.
Jason Tatum, c'est bon. Combien
55.
Ça fait pas de points en plus, mais c'est quand même bon. Et je crois avant, c'était Michael Jordan.
Avec je sais pas, tu m'en montres trop.
Ah ouais, mais il faut bosser. Hein. Je...
3 points pour Stephen, 1 point pour Geoffrey et Fred. J'avais envie de m'inspirer du Super Moscato Show du Kikadi avec une question en un coup.
Avec une proposition.
Okay. Voilà, vous n'avez droit qu'à une seule proposition.
D'accord, ok.
Je sais pas, je prends dépourvu Kevin, j'aurais dû le prévenir pour avoir le petit pan. Vous savez, il y a toujours le petit pan pour le question en un coup, il va nous trouver ça. Donc je vais vous poser une question. Une seule réponse, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse, 6 à côté.
C'est que moi j'ai rien compris, le petit pan, j'ai imaginé un animal justement, donc non, rien à voir.
Mais toi t'as un vrai problème avec les animaux.
Moi je crois que c'était Peter. Non, bah,
et clic clic.
Donc c'est simple pour cette question, hein, c'est tout simple. Donc on rappelle les points, 3 points pour Stephen, 1 point pour Fred, 1 point pour Geoffrey. Non mais Kevin, t'embête pas, c'est pas grave, je t'ai pris au début.
Ah t'es en train de meubler depuis tout à l'heure.
Oui, mais c'est ma faute, j'aurais dû prévenir
avant. On envoie la question, je suis en hypoglycémie.
Allez, on envoie la question. Victor Wembanyama a réalisé un triple-double avec 10 contres cette nuit.
Oui.
Qui, au All-Star Game, a réalisé le plus de contres aussi bien en carrière qu'en match ?
Mutombo ?
Hein ? C'est pas bon. Qui a réalisé le plus de contres dans un All-Star Game, que ce soit en match ou en carrière, lors de sélection All-Star Game ?
Il est éliminé, Fred.
Oui, il est éliminé, Fred. Meilleur contreur ?
David Robinson.
C'est pas bon. Stephen est tout seul. Qui a le record de contres ?
Dikembe Mutombo, David Robinson. Ouais.
Allez.
Donc il faut prendre un mec qui a joué beaucoup de All-Star.
On peut en jouer après, un deuxième tour s'il trouve pas.
La question, oui, on pourra remettre. Hein.
Ah oui, oui.
Faut jouer c'est un mec qui a joué beaucoup de All-Star Game.
Par contre, on va pas attendre.
Ouais, bah, je veux dire Kareem Abdul-Jabbar.
C'est bon, Kareem Abdul-Jabbar. Bravo. Ouais, qui a le record sur un match et le record total avec toutes ses sélections All-Star Game, puisqu'il est à presque 18 ou 19 hein, sélections All-Star Game. Kareem Abdul-Jabbar, messieurs.
Il est à 19, je crois que justement.
Et LeBron passe devant. À 20, vous allez écouter un extrait et vous allez devoir me dire qui parle. C'est pour un point. Je précise, ça ne date pas de cette année. Voici l'extrait.
Me, no All-Star? Man, please. I see y'all when I see y'all. But Bam does deserve that. He's been carrying the load a lot this
Jimmy
year.
Butler.
C'est bon, Jimmy Butler.
Qui parle de Bam Adebayo.
Ouais, qui dit, Bam le
C'était
mérite.
L'année dernière où on sent sa surprise, moi, pas All-Star, ouais, qui est un joueur qui est peut-être pas assez flashy dans les stats, parce
Jimmy
que
Beam.
Jimmy Beam est un joueur exceptionnel.
Oui, il n'est pas All-Star cette année encore.
Non.
Non.
Mais bon, il sera peut-être en finale NBA encore.
Encore.
Et c'est un hommage à son coéquipier,
Bam Adebayo, un des meilleurs pivots américains. Bam Adebayo, le joueur.
Good player.
Macharade, je ne suis pas très fier, mais bon, écoutez, on va y aller. Hein.
Prénom et nom ou nom et prénom ?
Prénom et nom. Messieurs, attention, il n'y en a que deux. Mon premier et mon deuxième.
Okay.
Ah, voilà. C'est pas allé très vite.
Mon premier est une préfecture française traversée par un gave. Mon deuxième était encore à 1,90€ ce matin le litre.
Pogazol.
Pogazol, oh,
je lui donne la réponse, c'est pas possible.
Et mon tout est le coach de Wemby au Rising c'est Star Challenge.
C'est quoi la gave ?
Le gave de Pau. C'est le fleuve, ça s'appelle le gave de Pau, voilà, en Pyrénées, un gave, c'est un fleuve qui descend de la montagne. Ouais.
En fait, t'as pas fait dans l'humour, t'aurais pu dire mon premier est un mec qui a pas de chance.
Ouais, c'est ça.
Pas de Pau.
J'y ai pensé, mais t'es dit vous alliez trouver tout de suite Pau. Voilà. Et le gasoil était encore 1,90€ ce matin.
Je connais pas la géographie de Pau, je suis désolé, hein, vraiment désolé.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Tu connais pas non plus les tarifs du gasoil ?
Non, j'ai plus de voiture.
Plus de voiture, mais c'est... Donc deux points, parce que c'était deux points pour Stephen qui écrase ce quiz.
Et il nous roule dessus.
Six, ce quiz.
Écarte les quiz.
6 points pour Stephen, 1 point pour Fred et 1 point pour Geoffrey. J'ai un match pour vous. All-Star Game 2005, c'était le tout premier de LeBron James.
Ouais, donc
Et ben vous allez me dire qui a participé à ce All-Star Game 2005. Franchement, messieurs.
Oh, t'es sérieux là?
Ça a failli être 85 parce que c'était le dernier Indianapolis. Franchement, c'est pas difficile.
All-Star 2005.
All-Star Game 2005, c'était franchement.
Il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans, effectivement, pour le premier de LeBron James. Et je vous autorise les coachs. Il y a donc évidemment les 5 à l'ouest, à l'est, plus les remplaçants. Et donc, vous pouvez y aller. On commence par Fred. Je ne prends pas LeBron James, évidemment.
Alors, trop tard, c'est celui que j'avais. Wade.
Dwayne Wade. C'est bon. C'était sa première sélection à lui aussi.
C'est chaud.
Je vais prendre Kobe Bryant.
Geoffrey, ton stylo fait pas semblant d'écrire les trucs sur la feuille. Tu connais personne.
Mais donc, regarde, je fais des gribouillis depuis tout à l'heure. Ça n'a
Kobe
absolument
Bryant,
rien à
Kobe
voir.
Bryant, c'est bon.
Kobe Bryant.
C'est bon.
C'est pas mal. Ah oui, quand même.
Qui n'était pas arrivé au premier au vote populaire à l'Ouest. Stephen.
Je suis vraiment obligé de te donner une réponse.
Oui.
Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki, c'est bon. C'était sa quatrième à l'allemand des Mavs.
Tim Duncan.
Tim Duncan, c'est bon. Voilà, messieurs, vous me disiez, oh là 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 là. Quand même.
Il y a 24 noms, on a trouvé 4. <c'est bon.
rire> Ah oui, mais ça va dérouler.
On va avancer, on va avancer.
Jason déroulé.
Jason déroulé.
Shaquille O'Neal.
Le Shaq, c'est bon. 12e sélection en tête des votes du public à l'Est. Puisqu'il était au Heat de Miami. Stephen.
2005, qui sont les stars en 2005 qui sont les stars en 2005 Tony Parker.
C'est pas bon.
Voilà, je t'ai dit que c'était dur en fait.
C'est pas bon, Tony Parker.
J'hésitais avec Chris Paul.
Le mec a fait. Et ben j'ai envie de
les
jouer
sont bons, hein.
Un autre Spurs. Gino.
Manu Ginobili, c'était sa première sélection. Elle, Manu. Juste. Eh oui, 2005, c'était sa première.
Ça fait deux fois que je passe Razibus.
Parce qu'en même temps, il était arrivé 2002 dans la Ligue. Donc, Geoffrey.
Je vais tenter Paul Pierce.
Ah ouais.
Paul Pierce, c'est bon, quatrième sélection. Bien avec sûr, les Celtics. Bon.
Allez, Frédéric, c'est à toi.
Vince Carter.
Ouais, Vince Carter, bravo, c'est bon.
J'ai les noms bons, là. Bravo. Ah ouais.
C'est pas si dur que ça, frère.
Il y a 20 ans quand même. Hein.
Bah, c'est sûr que j'ai les noms devant, oui, c'est facile. Effectivement.
Alors Vince Carter m'a fait penser à T-Mac.
Ouais, bravo.
Tracy McGrady, oui.
Merci Stéphane.
Il jouait où à l'époque?
T-Mac, il jouait à New Jersey?
Ouais, c'est pas ça, allez.
C'était à Houston.
À Houston.
Mais donc on fait un contre-quiz, quoi.
Fred, ouais, c'est toi qui as commencé.
Ça devient plus dur, là. Ouais, pas du tout, là.
J'ai envie de l'aider un peu. Il y a ton grand copain.
Mon grand copain. Ah, Garnett.
Kevin Garnett, c'est bon.
Eh, mon grand copain, ça veut rien dire. J'ai plein de copains, moi.
Ouais, c'est ton grand copain.
Ouais, c'est mon grand.
Pierce, Garnett, est-ce qu'on tenterait pas Ray Allen?
Ray Allen, c'est bon. Cinquième sélection. Il jouait où?
Ah, il jouait au Seattle de Supersonic?
Oui, c'est bon.
Seattle de Supersonic, je l'accorde pas.
C'est comme le Real de Madrid.
C'est le Real de Madrid. Fred.
Non mais n'hésite pas à regarder ton téléphone, il y a pas de problème Frédéric.
Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Non mais là c'est une triche ouverte et personne dit rien, c'est très bien.
Je vous ai dit que les coachs étaient bons, hein.
C'est pire que ça, ouais. C'est que
allez bah vas-y, bah balance.
Greg Popovich, c'est bon.
Ouais, d'accord, t'as bien meublé. Je prends Yao Ming.
Yao Ming, c'est bon évidemment,
parce que moi,
t'as du vote, 3ème sélection.
Mais
voilà, c'est comme ça.
Fred. Sans vous jouer juste pour vous départager puisque Stephen a remporté le quiz.
Ah, j'ai cru qu'il y avait un point par bonne réponse, qu'on était en train de dépasser Steve.
Ouais,
non, mais non, pas du tout.
Non.
Oh, non.
Si,
ok.
Si.
Oh, c'est gentil, merci.
Mais je sais plus à combien on est, ça arrive.
Un petit qui mettait plein de points.
Petit qui mettait plein de points. The Answer.
Allen Iverson, c'est bon.
Donc les coachs sont bons. Jason Kidd.
Jason Kidd, il était coach, il était pas coach à l'époque.
Oui, mais ça peut être joueur.
Je sais pas, parce que tu as fait une transition.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête en même temps.
Jason Kidd, c'est pas bon.
Oh, c'est terrible.
Eh ben, j'ai gagné.
C'est vrai, tu as gagné.
Personne n'a reconnu mon
nom. Oui, mais j'arrivais plus à trouver son nom.
Sean Marion.
Sean Marion.
Ah, mais oui. Sean Marion, Rashard Lewis, Steve Nash, Yamare Stoudemire pour sa première sélection à l'ouest. À l'est, il vous manquait Grant Hill, qui était starter. Gilbert Arenas. Anton Jamison, Jermaine O'Neal, Zydrunas Ilgauskas et Ben Wallace pour les Pistons. Le coach, c'était le coach de Miami qui était...
Pat Riley.
Bah, c'était Pat Riley, ouais. Non, c'est les Spostra déjà.
En fait, oui, c'est pas Riley, mais Wikipédia m'a mis Stan Van Gundy, donc c'est pour ça que je comprends pas. Ah. Peut-être que Pat Riley l'avait pas fait, mais c'est Pat Riley évidemment en 2006.
Je pense.
En 2005.
2005, ouais.
Oui, il revient pas Pat Riley ? Est-ce qu'il y a pas un...
Tiens.
Bon, en tout cas, c'est une victoire. Alors, je sais pas combien ça fait, mais Stephen reste devant avec ses 7 points. Il était largement
2003-2005, Stan Van Gundy.
C'est ça, ouais,
Stan Pat Riley est avant et Pat Riley revient après Stan Van Gundy.
Alors on rappelle Tonton et Tonton Pat. Et puis voilà. Merci messieurs.
Merci
Arnaud. Pour cet épisode de Basket Time. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. À très vite. Ciao tout le monde.
RMC. Basket Time.